On va aller ensemble dans la prière avant d'écouter la parole de Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons t'adorer ce matin alors qu'on va parler ensemble de cette vision, on va parler d'accueil ce matin, Seigneur. Avant même d'écouter ta parole, je veux, Seigneur, me rappeler que j'ai été accueilli. J'ai été accueilli par toi, Seigneur Jésus. Tu as fait de moi ton frère, ton ami, ton compagnon d'œuvre, Seigneur. Et j'ai cette promesse absolument extraordinaire, Seigneur, que tu me prépares une place au ciel. Tu es encore en train de te préparer à m'accueillir, Seigneur. Et je t'aime, Jésus, tu es mon repos. Tu es la personne, tu es l'endroit, tu es celui auprès de qui je sais toujours que je suis accueilli, Seigneur. Je prie de parler à nos cœurs ce matin parce que nous voulons te refléter, Seigneur. Nous voulons être des reflets de ton amour, de cet accueil qu'on trouve en toi. Cette année, on veut l'être en Église et individuellement, on veut grandir ensemble, tout simplement pour te ressembler davantage, Seigneur. Père, je te prie au cours de l'année 2015 de nous aider chacun d'entre nous dans ces éléments très concrets où nous voyons que tu veux travailler dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à ne pas vivre ça comme un devoir religieux, mais vraiment à vivre ça comme une collaboration, une obéissance à ton esprit, une poursuite de la plénitude de ton esprit, Seigneur. Aide-nous à commencer chaque journée en nous appuyant sur l'Évangile, non pas sur ce qu'on arrivera à faire comme performance, Seigneur, pour être à l'écoute de ton esprit dans cette journée. Et viens nous parler maintenant, je t'en prie, par ta sainte parole. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. On va écouter notre frère Luc.
Donc, la lecture de ce matin, dans Romains, verset 5 au verset 13, dans l'édition de Louis II. Donc, je répète, verset 5 à 13, chapitre 15. Que le Dieu de la persévérance, de la consolidation, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis par la gloire de Dieu. Je dis, en effet, que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Isaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton, qui se lèvera pour régner sur les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit.
Merci, Luc. Vision Ecclésia 2015. On veut être concret cette année, puis on veut avancer ensemble. Et comme je disais tout à l'heure lorsque j'étais avec les jeunes, si on pourrait tout simplement prendre la Bible, puis passer à travers toute la Bible, puis dire voici ce qu'on veut faire comme Église. C'est un peu flou quand même. C'est un peu vague. Ça, c'est ce qu'on fait à tous les jours. On veut écouter Dieu, puis grandir ensemble. Mais en même temps, comme peuple de Dieu, on veut prendre une mesure un peu de là où on est, puis grandir ensemble. Alors, au mois de février, on va vous revenir avec un petit bilan de santé qu'on va faire ensemble, puis évaluer un peu dans tout ça où est-ce qu'on est. Avec une question, par exemple, difficile. Difficile parce que je suis pas sûr qu'on voudrait entendre la réponse. Si ce matin, on faisait un sondage anonyme et qu'on disait, est-ce que tu es malheureux et est-ce que tu souffres de solitude alors même que tu fréquentes régulièrement l'Église de l'Espoir? Est-ce que vous êtes très, très confiant que tout le monde dirait non, tout va bien? Ou est-ce que vous pensez que c'est possible d'être dans une Église, ici dimanche après dimanche, souffrir de solitude, être malheureux et vivre ça seul? Ça fait une vingtaine d'années maintenant que je suis pasteur, je peux vous dire que c'est très facile de vivre ça. Que ce soit par la maladie qui nous isole, que ce soit parce que mon conjoint, mon épouse, mon époux m'a abandonné, je ne sais pas combien de fois les gens qui avaient été abandonnés m'ont dit « Moi, je suis deux fois seul. » J'ai été abandonné par mon conjoint, puis le jour où je suis tombé seul, l'Église ne savait plus comment se comporter avec moi. Mes amis ne m'invitent plus pour jouer aux cartes, parce que je suis seul. Deux fois abandonné dans l'Église de Dieu. Vous savez, la solitude, les étranges, les étrangers, c'est quelque chose de tellement présent dans le monde. C'est fou, hein? On est plus nombreux que jamais sur la terre et il y a des millions et des millions et des millions de personnes qui souffrent de solitude. On vit à une époque où la connectivité, la communication, technologiquement, c'est plus facile que jamais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu mon chum. Paf, j'y envoie un texto, je peux le savoir. J'ai pas besoin d'y envoyer un courrier qui va traverser l'océan, qui va peut-être se rendre. En principe, il devrait pas y avoir d'isolation, d'isolement. Et pourtant, dans les villes, dans les milieux urbains, il y a tellement, tellement, tellement de solitude. Et on ne peut pas, comme Église, changer le monde au complet puis régler ce problème-là à la grandeur de la terre. Mais il y a une chose qui est à notre portée. Lorsque quelqu'un se joint à l'Assemblée, lorsque quelqu'un vient visiter cette Église, nous pouvons être une Église qui accueille les étranges, qui accueille les malheureux, les délaissés, puis qui les aide à se sentir chez eux. Et donc, sur notre carton, qu'est-ce qu'on a mis comme accent, deux accents sur lesquels on veut travailler en 2015, si vous l'avez avec vous? On va être une Église qui s'investit à fond pour faire des disciples. On va en parler pendant l'année, on va vous accompagner dans ça, on va chercher chacun d'entre nous comment est-ce que Dieu nous appelle à s'engager dans ça de toutes sortes de manières, à travers nos dons, nos opportunités, notre contexte de service, les gens autour de nous, mais on va être une Église qui accueille le délaissé et le malheureux. On a parlé pas mal vers la fin de l'année 2014. Cette année, on va aller un petit peu plus loin dans ça. Et donc, on va être sensible à cette idée qu'il y a des gens qui arrivent ici, il y a des gens qui sont ici, il y a des gens des fois qui peut-être vivaient pas de la solitude et de l'isolement pendant des années dans l'Église, puis il y a quelque chose qui a changé dans leur situation de vie et tout d'un coup, de plus en plus, ils sentent qu'ils vivent de l'isolement. Ils se sentent seuls. Et donc, on veut grandir concrètement ensemble dans ce domaine-là. Nous voulons être une famille pour les délaissés et les malheureux. Et ce qu'on va voir ensemble ce matin, c'est que nous étions des étrangers. On était nous autres des étrangers. On était délaissés et malheureux, puis Dieu nous a accueillis. Mais on l'oublie facilement. Dieu nous a accueillis, et donc on veut être cette famille-là qui va accueillir à notre tour. Et je suis certain que vous pouvez vous rappeler du jour où vous avez été présenté à une église, présenté à des chrétiens, et vous êtes capable d'identifier dans votre souvenir des gens qui ont su vous accueillir et qui ont su faire la différence pour vous. Nous étions des étrangers, des délaissés, des malheureux. Vous savez, l'Évangile, cette semaine, j'étais en train de penser, puis de me préparer, puis de réfléchir, puis j'ai dit, l'Évangile, on pourrait l'appeler l'Évangile de l'accueil. Parce que l'image, la métaphore de l'accueil, c'est une métaphore, c'est une réalité qui est vraiment au cœur de l'Évangile quand on y pense. N'est-ce pas? Je peux remonter dans l'Ancien Testament avec Israël et c'est cette idée-là qui est encore présente. Cette idée que Dieu est celui qui va vers l'étranger, vers celui qui est délaissé, vers celui qui est malheureux et qui l'accueille, qui le prend avec lui, qui voit cette solitude, qui voit cet isolement, qui voit cette personne qui vit du rejet. C'est ça que Dieu a fait avec Israël. Israël était étranger dans une terre étrangère, abusé, littéralement esclave. Et Dieu est allé puis il a dit, tiens, je vais être un père pour vous. Je vais être une famille pour vous. Je vais vous accueillir. Je vais vous prendre à l'écart. Je vais prendre soin de vous. Qu'est-ce qui arrive lorsque j'arrive dans le Nouveau Testament? Éphésiens 2, 11 et 12. C'est pourquoi vous, autrefois païens, parle des non-juifs, la quasi-totalité d'entre nous. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, sans Messie, sans Sauveur, privés du droit de cité en Israël parce que vous étiez des étrangers, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est une des choses qui est particulière lorsque tu lis la Bible, tu lis l'Ancien Testament, puis là, à un moment donné, tu prends conscience, OK, l'Ancien Testament, c'est Israël, 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 Israël. Mais là, à un moment donné, tu sors de ta Bible, tu t'en vas sur une map monde, puis tu dis, boy, c'est pas gros, Israël, hein, c'est un petit bout de coin de pays de rien du tout. Puis tout le reste de la terre, c'est les païens. Et Christ vient, Jésus vient, et il dit, l'Évangile, la bonne nouvelle de cet accueil que Dieu veut offrir aux hommes, va être annoncé à toutes les nations de la terre. Des gens de toutes les nations de la terre vont venir. Nous, on vit aujourd'hui 2000 ans après la venue de Jésus. Le christianisme a façonné la pensée occidentale. La première fois que vous mettez le pied dans une église évangélique, l'idée que ce Dieu-là, le Dieu unique créateur de la terre, le Dieu monothéiste, le Dieu des Juifs, le Dieu des chrétiens, ne serait pas votre Dieu à vous, parce que vous seriez des étrangers. On n'arrive même pas à imaginer cette affaire-là. Mais avant la venue de Jésus, là, chaque peuple sur la terre avait son, ses centaines, ses milliers de dieux dans certains cas. Mais cette idée qu'il y a un Père, un Dieu créateur qui a créé tout l'univers, qui est l'auteur, le Père de tous les hommes sur la terre, et que ce Dieu-là peut être mon Dieu, avant la venue de Jésus-Christ, pour les païens partout sur la terre, pour les non-juifs partout sur la terre, c'était étrange comme idée, ce n'était pas là. C'est ça qui fait que tant de peuples païens étaient séduits, attirés par le judaïsme. Les Juifs venaient et disaient « non, non, non ». Dieu ressemble pas à une fleur, Dieu ressemble pas au soleil, Dieu ressemble pas à une vache, un bœuf, Dieu ressemble pas juste à l'être humain. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout ça. Un créateur, un auteur, une personne, un père de tous les hommes sur la terre, de toutes les couleurs, de toutes les cultures, c'est le créateur. Ce Dieu monothéiste-là, ce sont les Juifs qui l'ont apporté et bien des gens étaient attirés, voulaient le connaître. Mais voilà, de quel sang es-tu né? Alors, il y a combien de Juifs de naissance ici? Faites-vous en pas, on les aime. Vous pouvez lever la main s'il y en a. On les aime beaucoup. OK, malgré ça, non. Mais voilà, tu étais un gentil, si on voulait le dire gentiment, on t'appelait comme ça, tu étais un gentil, sympathisant, tu t'étais converti au judaïsme. Bravo. Donne-moi ta généalogie jusqu'à Abraham, ça passe pas par là. Puis Jésus vient. Jésus dit non. Tout ça, c'était une annonce, une prophétie qui annonçait ma venue. Parce qu'en réalité, celui qui croit en Jésus-Christ, on va voir ça dans Romains, est fils d'Abraham, de la même manière qu'il soit né juif, non-juif, celui qui croit en Jésus-Christ, juif ou non, est fils spirituel d'Abraham, véritablement fils de Dieu. Alors voyez-vous, nous on vit 2000 ans plus tard, puis vous croisez des gens dans la rue, puis ils vont vous dire « Ah oui, moi je crois dans Dieu, je crois en Dieu, je crois dans le Dieu créateur, tout ça. » C'est parce que l'Occident a été façonné, la pensée occidentale a été façonnée par le christianisme, et cette idée-là d'un Père disponible pour tous, qui aime tous, c'est le christianisme qui l'a annoncé partout. Ce que les gens ne réalisent pas, et peut-être que tu n'es pas conscient de ça, c'est qu'en réalité, cette paternité-là, ce Dieu qui est là pour tous les hommes, pour entrer dans cette relation-là avec lui. Ce qui fait que ce message-là est omniprésent puis notre conception de Dieu a complètement changé. C'est parce qu'une personne est venue, Jésus-Christ. Et lorsque Jésus est venu, il a offert sa vie en sacrifice, en mourant sur la croix, afin que tous les êtres humains, qui sont tous égaux en une chose certainement, tous pécheurs, crapuleux, corrompus, menteurs, fourbes, hypocrite, égoïste, on est tous faits de la même nature. que chacun d'entre nous, juif, non juif, lorsqu'on place notre foi dans le sacrifice de Jésus, on puisse être adopté. On puisse être adopté. On puisse entrer dans la famille de Dieu avec cette conviction profonde que lorsque je ferme les yeux, lorsque je ferme les yeux puis je dis, Père, il y a des épreuves devant moi, mais je sais que tu m'aimes. Je sais, Seigneur, que ce qui s'en vient pour moi, ce sont de bonnes choses, malgré la tourmente qui est devant moi. Je sais que tu as de bons projets pour moi, Père. Cette certitude-là que j'ai dans mon cœur quand je prie comme ça me vient du fait que j'ai été adopté en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'ai droit de cité. Je suis citoyen des cieux, de la même manière qu'un Juif qui a cru en Jésus-Christ, son Messie, son Sauveur. De la même manière. Mais avant ça, j'étais orphelin. J'étais étranger. Éphésiens 2:19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Et donc, ce que Dieu a fait, ce qu'il avait commencé à faire en Israël, dans l'Ancien Testament, ce qu'il a fait en Jésus-Christ, c'est que Dieu a fondé sa maison, sa maisonnée à lui. Sa maison à lui. Et chaque église locale, lorsqu'elle est fondée sur Jésus-Christ, sur la saine doctrine telle que Christ nous est présenté, chaque église locale, je ne sais pas comment le dire, c'est une des chambres terrestres de la maison de Dieu. Mettons que le Seigneur, il y en a pas mal de résidences secondaires sur la terre. Et ici, c'est la maison de Dieu. Et c'est pour cette raison-là, que même si on ne peut pas régler le problème de la solitude, du malheur, du fait que les gens se sentent délaissés partout dans le monde, puis lorsqu'on on regarde les nouvelles, c'est désespérant. Ça devient accablant. On ne peut pas régler le sort de l'humanité à 300 personnes. Mais on peut s'assurer d'une chose. C'est que nous allons être cette famille qui est accueillante, qui accueille les délaissés et les malheureux. Et pour être ça, il ne s'agit pas simplement de dire « oui, c'est ça que je veux faire ». Il faut apprendre à être accueillant. Il faut apprendre à être accueillant. Il y a un aspect très, très concret à être accueillant. On va le voir avec Jésus. Puis il y a un autre aspect qui est plus subtil aussi. Et l'accueil, ça se passe à la fois dans des gestes extrêmement concrets. Chez Jésus, l'accueil, c'était hyper concret. Mais l'accueil, ça se passe aussi dans des subtilités. Vous le savez, quand vous donnez une poignée de main à quelqu'un, puis il y a quelque chose dans le regard qui vous dit que « wow, t'es qui toi? » Juste dans un regard, vous croisez quelqu'un dans la rue, puis il y a quelque chose qu'il n'aime pas dans ton allure, vous avez un nouveau collègue au travail, des fois, c'est subtil. Vous êtes en train de luncher au travail, puis vous partagez quelque chose, puis oups, malaise. Passe un autre appel. OK, je pense qu'on reparlera plus de ça ici. Est-ce que vous avez été accueilli? Vous arrivez dans un petit groupe, puis vous vivez quelque chose, un combat, une lutte, n'importe quoi. Vous vous ouvrez de ça. OK, c'était la dernière fois que j'en parlais ici. Vous allez vers quelqu'un, puis vous vous confiez, vous ouvrez à cette personne-là. Vous n'avez pas fini de brailler que la personne est déjà en train de vous dire « Écoute, c'est simple, c'est facile, tu fais ça. » Merci, je te connais. J'ai compris qui tu es. J'ai pas été accueilli. Et on a à grandir dans ça. Ce qui me réjouit énormément, je vous l'ai dit au début de l'année, je l'ai dit vers la fin de l'année aussi, ce qui me réjouit énormément, c'est que de plus en plus souvent, très souvent, il y a des gens qui se joignent à l'Église puis ils viennent nous voir parce qu'on est les figures publiques. C'est souvent nous qui viennent partager ça. Ils vont dire, c'est tellement chaleureux ici. Wow, j'aime ça. On doit aller un petit peu plus loin encore. Il ne s'agit pas d'accueillir lors d'une première visite, mais il s'agit de s'assurer que la personne qui veut cheminer avec nous spirituellement sent vraiment qu'elle peut entrer dans cette famille-là. Sans vraiment qu'il va y avoir quelqu'un qui va vouloir faire un bout de chemin avec elle. Pour Jésus, l'accueil, c'était quelque chose de très, très concret. Je vais adresser quelque chose que je n'ai jamais fait ce matin, vous allez voir. J'espère que ça va être libérateur pour l'Église. Jésus touchait les malheureux, les délaissés, les nourrissait, les guérissait. Jésus était incroyablement accueillant. Je vais adresser ça ce matin. Vous savez que Jésus, c'était... Moi, quand je le regarde dans ma tête, là je ne veux pas insulter personne, mais je vais peut-être le faire. Okay? Jésus, ce n'était pas un anglo-saxon. C'était peut-être plus un latin qu'un anglo-saxon. Parce que Jésus, c'était un toucheux. Des fois, je jase avec M. Carson. Vous savez que j'aime énormément Donald Carson. On en parle souvent. Il est né à Montréal. M. Carson, c'est un anglo-saxon. Fait que même s'il me dit qu'il est montréalais, j'ai juste à lui donner la main. Puis là, il est là, là. En fait, monsieur, là, si jamais il écoute ça, il va dire mon espèce. Il est là, là. Je lui donne la main, là. J'ai juste à faire ça. Comme ça. Subtilement, à l'intérieur de 15 secondes, il va faire ça. Je viens d'envahir sa bulle. Imaginez mon ami Stéphane Gagné, je vous dis. Il saute dessus et il fait une accolade. D'après moi, Jésus, c'était un latin, c'était pas un anglo-saxon. Parce qu'il touchait. Pour ceux qui sont nouvelles arrivants au Québec, je vais vous donner un petit cours de Québécois 101. Deux mots que je vous apprends ce matin, toucheux puis tripoteux. OK? Les Québécois savent c'est quoi? Toucheux, tripoteux. Jésus, c'était un toucheux, c'était pas un tripoteux. OK? On va aller dans les nuances un petit peu. Mais Jésus, c'était un toucheux. Jésus, c'était un toucheux. Il touchait à des lépreux, tableau. Ah, ça, c'est toucheux, ça. Une femme de mauvaise vie vient le voir. Elle veut laver ses pieds avec ses cheveux. Sauve-toi en courant, man. Tu sais pas ce que... Mais Jésus savait que l'accueil, c'est quelque chose qui ne se dit pas seulement avec les mots, ça se dit avec les mains. Ça se dit avec une accolade. Jésus, c'était un toucheux. Puis on n'est pas tous comme ça. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai appris avec les chrétiens. Je suis arrivé, puis j'avais à un moment donné, j'arrivais avec des jeunes adultes, dans Gibec, tout ça, puis j'ai rencontré des gagnés, puis des turcottes, puis là, les gars, ils te sautent dans les bras, puis ils te font des accolades, puis « Lâche-moi! » Mais sais-tu quoi, à un moment donné, tu dis « Aïe, aïe, c'est correct, ça, c'est bon, ça. » Finalement, ça m'a fait du bien. Tu m'aurais dit que tu m'aimes, ça aurait été correct, mais tu m'as pris dans tes bras, puis wow, je te crois. Ça fait toute la différence. Moi, j'ai appris ça. Mais ce que je veux vous dire ce matin, les toucheux, là, vous avez un free pass ici. OK? Vous avez le droit. Vous avez le droit d'y aller. Faites-le avec sensibilité. Il y a des gens, vous allez juste les mettre mal à l'aise. Fait, aimez-les. Allez-y gentiment. Doucement. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont accepter un gros colleux. Faites-le en respectant les gens. Mais sérieusement, les Québécois qui ne sont pas capables d'être toucheux, ce n'est pas des Québécois. On n'est pas fait comme ça pour de vrai. Puis dans l'Église, vous comprenez, chacun sa personnalité, peut-être que vous êtes malade. Je respecte ça, là. Je ne veux pas que tout le monde devienne de même. C'est pas ça. C'est que l'Église, c'est une diversité. L'Église, c'est une diversité, puis il faut qu'il y ait une liberté d'être ce qu'on est dans l'Église. Puis si vous êtes comme ça, c'est correct. Puis mon deuxième mot, ben tripoteux, non, ça, c'est pas correct. T'sais. Fait que je comprends qu'il y a une espèce de malaise où tu dis, mais là, bon, pour les nouveaux arrivants, tripoteux, tu sais, c'est, encore une fois, je m'excuse, c'est du Québécois 101, c'est le mononcle, tu sais. C'est le mononcle qui est pas bien dans sa tête, pas très heureux, puis qui aime bien toucher les petites nièces. Ça, c'est le tripoteux. Puis là, il y a une espèce de zone où on se sent comme mal à l'aise parce qu'on se dit, est-ce que c'est décent, est-ce que c'est pas décent? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On veut être dans la décence. Mais c'est possible d'être affectueux et décent. C'est possible de bien faire ça. C'est possible pour moi de donner une poignée de main à quelqu'un puis juste de mettre la main sur l'épaule. Puis si je sens qu'il y a un malaise, je dis, OK, je respecte ça. Ça sera juste ça, puis c'est correct comme ça. Puis il y en a un autre que non, c'est pas ça. Il veut comme, boum! C'est correct. Alors, vous avez un free pass. Aidez-nous à ressembler un peu plus à Jésus. Faites-le avec amour, avec délicatesse, avec sagesse. Jésus était un toucheux. C'est bon? On va grandir tranquillement là-dedans. Puis il y a des gens qui se disent, hey, moi, je pars pendant le dernier chant matin. Viendrez me voir, je vais vous imposer les mains. Jésus partageait. Jésus savait qu'accueillir, c'est partager. C'est là que je dis que c'est concret. Accueillir, c'est partager. J'ai de la nourriture à partager. J'invite pour un repas. Je partage ma voiture pour voyager. Je partage ma place. Je laisse ma place. Vous voyez des gens qui arrivent ici, puis ils sont là, puis ils cherchent une place. Boy, levez-vous debout, puis dites, « Hey, viens t'asseoir ici. Je vais aller me trouver une autre place. Je suis chez nous, moi, il n'y a pas de problème. Je sais où est-ce qu'on les range, les chaises dans le sous-sol. Je vais aller m'en chercher, il n'y a pas de trouble. Je suis chez nous. Laissez votre place. » Partager, c'est très concret à accueillir, partager. Et on a besoin de faire ça parce que c'est là qu'il se passe quelque chose de magique où je dis, aïe, aïe, je suis chez nous ici. Les moments où j'ai le plus de commentaires positifs, moi personnellement, où les gens disent, waouh, c'est accueillant, c'est lorsqu'on fait des agapes, lorsqu'on fait des repas ensemble. Puis lorsqu'on a quelqu'un que ça s'adonne, c'est la première fois qu'il vient à l'église, on a un repas puis il reste pour manger. Il dit, waouh, vous êtes tellement accueillant ici, je viens pour le lunch la semaine prochaine. Invitez-le chez vous. Le lunch est chez vous. Invitez-le chez vous. Partagez. Faire une petite place pour les gens. Invitez quelqu'un en lui donnant un lift. Et enfin, accueillir, c'est prendre soin de la personne. C'est tellement puissant dans le ministère de Jésus. Jésus voulait prendre soin des gens. Vous savez, il y a pas eu un être humain sur la terre qui comprenait mieux la nature humaine que Jésus. Du début de son ministère, Jésus savait que s'il se mettait à faire des miracles, s'il se mettait à guérir des malades, s'il se mettait à accueillir les gens, les gens allaient venir vers lui, la majorité des gens allaient venir vers lui pour recevoir. Pas pour le connaître personnellement, mais pour recevoir. Jésus, en termes de lucidité, là, parce que souvent le cynisme, on appelle ça de la lucidité, ça n'en est pas. Si c'était ça la lucidité, Jésus aurait été le plus cynique des êtres humains parce qu'il connaissait la nature humaine. À un moment donné, il leur a dit, vous venez juste parce que je multiplie le pain puis je vous guéris. Mais vous comprenez pas que je vais vous donner tellement plus que ça. Mais Jésus le faisait. Il continuait à le faire. Il continuait à prendre soin. Et donc, accueillir pour nous en 2015 le malheureux, le délaissé, c'est d'accepter d'entrer en relation avec son malheur. Puis souvent, j'ai pas les réponses. Hein? Les gens qui sont malheureux, ils n'ont pas besoin qu'on leur donne toutes les réponses. Souvent, tout ce qu'ils ont besoin, c'est qu'on les accompagne, qu'on soit là avec eux à cet endroit-là. Mais je vais vouloir prendre soin. Je vais vouloir entrer en contact avec ton malheur. Je vais vouloir entrer en contact avec ta solitude. Je vais vouloir prendre soin de toi. Cette année, en 2015, le Seigneur veut nous enseigner pour qu'on lui ressemble davantage. Il veut nous enseigner à prendre soin. En voyez-vous, il y a quelque chose de super concret. Jésus touchait. Jésus partageait. Jésus faisait une place. Il y avait toujours une place pour une personne de plus. Il était fatigué, il avait plus de temps, il fallait qu'il aille dormir. Il y avait encore du temps. Puis Jésus prenait soin. C'est très, très concret et on a besoin de grandir dans ce domaine-là. Tout simplement pour ressembler à Jésus et devenir accueillant. Puis d'un autre côté, accueillir, il n'y a rien de plus subtil. On pourrait faire tout ce qu'on a dit là, puis les gens pourraient encore ne pas se sentir accueillis. Est-ce que vous me suivez? On pourrait faire tout ça. Grosse accolade, partager, inviter à manger, puis les gens se sentent totalement jugé. Jésus allait manger régulièrement chez des gens accueillants qui ne l'étaient pas du tout. C'est des hypocrites religieux. Il n'y avait aucun accueil. Mais cette inhospitalité-là était beaucoup plus subtile dans ce cas-là. Et donc, il y a quelque chose de subtil. Devenir accueillant pour nous à l'Église, c'est d'apprendre davantage encore à aimer sans discrimination. Parce que Jésus n'aimait pas juste les beaux, les fins, les intelligents, qui sentent bon, puis que quand tu t'assois avec eux, tu dis « Hey, t'as-tu vu, j'étais avec lui? » Jésus aimait, accueillait les beaux, les lettres, ceux qui sentent bon, ceux qui sentent mauvais, ceux qui pouvaient y payer le lunch, ceux qui n'avaient pas une scène, ceux qui étaient juifs, ceux qui ne l'étaient pas, ceux qui étaient hommes, ceux qui étaient femmes. Jésus aimait sans discrimination. C'était scandaleux pour son époque tellement ils ne connaissaient pas ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on a à apprendre comme Église. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qu'on voit puis on se dit, « Boy, si je décide de l'accueillir, lui, ça va être compliqué. » Il parle tout le temps. Il parle tout le temps. C'est comme, « J'ai d'autres choses à faire cet après-midi que d'écouter Johnny qui parle tout le temps. » Il est toujours... Et lui, il est toucheux. Toucheux, non, mais tu sais, fatigant. En plus, il ne sent pas bon. Puis quand il m'explique ses problèmes, je ne comprends rien, puis j'ai rien comme solution à lui donner. Puis je ne comprends pas cette culture-là. Ils sont bizarres. Ils sont juste étranges. Puis c'est pas que je ne veux pas accueillir, c'est que lorsqu'il se met à parler en français, il connaît 4 mots. On n'arrive même pas à se comprendre. Sa seconde langue, c'est l'anglais, puis moi, je ne parle pas l'anglais. Fait que Jésus aimait sans discrimination. Jésus allait plus loin que ça encore. Jésus aimait sans condamnation. Dans Jean 8, on lit « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Puis là, ils veulent voir, c'est un test. C'est des hypocrites, ils sont là juste pour tendre un piège à Jésus. Jésus les challenge, puis toute la gang s'en va, puis on lit au verset 7, « Comme ils continuaient à l'interroger, il se leva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu d'elle, au milieu d'eux. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? » Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Je vais le dire comme ça. Si vous connaissez un petit peu la Bible, vous connaissez un peu l'Ancien Testament, essayez de faire un meilleur job que les chums de Job. Qui avait le sentiment qu'avant longtemps, il avait assez écouté sans condamner. Puis qu'après ça, il était prêt à se placer et dire, regarde, je connais le remède, je connais la solution, confesse ton péché, bonhomme. Jésus accueillait sans condamner. Et ça, c'est fondamental. Parce que si on doit devenir une église qui accueille, les gens vont venir tout croche, vous comprenez? Les gens vont venir tout croche. Puis tant que l'Évangile n'est pas rentré dans leur vie, je veux dire, écoute, l'Évangile est dans ta vie, puis je ne suis pas sûr que tu veux passer au confessionnal cette semaine, bonhomme. Pas sûr, moi, que vous voulez tous vous confesser cette semaine à M. le curé. Puis l'Évangile est dans votre vie. Qu'est-ce qu'on va faire avec ceux qui arrivent ici et qui ne connaissent pas Jésus? Jésus accueillait sans condamnation. Mais voyez-vous, c'est pas que Jésus disait « Va dans ta vie de péché et que Dieu t'accompagne, le bon papa du ciel, aime tout le monde. » Non, il a dit « Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. » Et donc, qu'est-ce que ça veut dire accueillir, aimer, sans condamnation, c'est que je suis capable de marcher dans les mocassins de cette personne-là. Je suis capable de l'accompagner là-dedans. Je suis capable de l'écouter jusqu'à temps qu'elle voit bien que ma propre faiblesse en moi m'interdit d'avoir un regard condescendant, de la regarder comme si j'étais au-dessus d'elle. Puis à un certain moment donné, lorsque ça a été bien exprimé, si la personne cherche moindrement Dieu, cherche moindrement de l'aide, je vais être dans une position où je vais pouvoir commencer à l'accompagner. Et c'est ça qu'on doit faire. 2 passages encore. C'est Paul qui dit dans Galates 6:1, « Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, n'ayez pas sarcastique ici. Il est en train de dire, vous qui marchez, vous n'êtes pas, en lutte avec ce péché-là, ça va. Il dit, redressez-le avec un esprit de douceur. Puis voyez-vous d'où vient l'humilité? Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Et donc, aimer puis accueillir sans condamnation, c'est écouter l'autre, c'est l'accompagner dans sa misère, dans son péché, dans ses combats, dans sa détresse, jusqu'à ce que la personne voit très bien qu'il y a quelque chose qui résonne en moi, qui dit, regarde, on est fait de la même nature, bonhomme. Je comprends tellement, puis peut-être c'est pas les mêmes luttes que j'ai que toi. Moi, je lutte pas avec la coke, tu sais. Mais la coke, c'est une idole comme d'autres idoles. Je peux t'en donner une couple de mes idoles. Et il y a quelque chose à un moment donné qui connecte à ce moment-là. J'ai franchi ce seuil-là que les chums de Job n'ont jamais réussi à franchir. Parce que je suis capable de l'écouter, et là, je suis capable de commencer à travailler en collaboration avec l'Esprit-Saint pour l'accompagner avec cet esprit de douceur, d'humilité. Paul dit aussi dans 2 Timothée 2, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance dans le sens qu'il va être sensible pour tous. » Être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Moi, les adversaires, des fois, tu sais, je vous le dis, hein, j'aime la chasse puis j'aime le karaté. Les redresser avec un esprit de douceur, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. En 2015, on veut grandir comme Église et on veut apprendre à être accueillant. Le point de départ, c'est qu'on doit toujours garder à l'esprit que nous avons été des adoptés. On est des fils et des filles adoptifs de Dieu. Parce qu'on a été adoptés, on peut apprendre à être accueillant. Ça va de soi. On fait simplement passer au suivant cet amour que Dieu nous a donné. Et ça, ça se fait de manière extrêmement concrète. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas des « Oh, nous voulons être accueillants ». Il y a des gestes qu'on pose. J'apprends à aller vers la personne, puis si la personne a besoin que je la prenne dans mes bras, je vais la prendre dans mes bras. Si elle a besoin que je pleure avec elle, je vais pleurer avec elle. Si elle a besoin de venir manger chez nous, viens donc, on va aller prendre un lunch ensemble. Je vais apprendre à partager pour accueillir la personne. Je vais faire de la place pour cette personne-là. Dans vos petits groupes. On commence un petit groupe, je pars moi un nouveau groupe. Puis la semaine dernière, lorsqu'on était ensemble avec les personnes qui vont commencer l'aventure avec nous, j'ai dit, dans mon groupe, il y a une règle qui doit être absolument claire. Je ne veux jamais que vous me demandiez la permission avant d'inviter quelqu'un dans le groupe. Ça va contre toute ma compréhension de ce que c'est un petit groupe. Le groupe est toujours ouvert. Quand il va être trop rempli, c'est parce que Dieu va être tranquillement en train de nous montrer qu'il faut multiplier, c'est tout. Puis on va faire plus de place. Puis quand il n'y aura plus de place dans cette salle-là, on fera un deuxième service. Puis quand on aura besoin d'un troisième, on en fera un troisième. On va implanter des églises. Il y a toujours de la place autour de la table pour une personne de plus. Accueillir, ça se fait de manière très concrète. Et accueillir, ça se fait de manière très subtile aussi. Parce que si dans mon cœur, je ne suis pas accueillant, les gens vont le détecter. Ce n'est pas une affaire de formule magique, cette affaire-là. C'est une affaire qui se passe dans le cœur, qui se lit dans les yeux, qui s'entend à travers mes paroles. À travers le fait que je ne fais pas de discrimination. À travers le fait que je ne condamne pas. La personne est déjà sous un jugement. Celui de Dieu est dans le péché. Ce qu'elle a besoin de moi, c'est que je l'amène vers Christ. Elle n'a pas besoin que je la condamne. Elle a besoin que je la conduise vers Christ. Et ça me demande à moi de prendre le temps de connecter avec elle. Et on a vraiment du chemin à faire pour apprendre ça. Alors, comme on a fait la semaine dernière, je vais terminer avec ça. Je vous donne une liste. Vous avez reçu ça dans votre dépliant ce matin. Vous avez une liste de 15 exemples. Je sais qu'il y a des personnes qui partent d'ici et disent « 15 exemples ». Il y en a qui me l'ont dit. Il y en a 15, c'est comme trop. C'est juste pour ouvrir vos horizons, OK? Si vous en prenez une et dites « Hey, j'essaie ça cette semaine. » Ouh! On est parti, OK? C'est simplement pour ouvrir vos horizons. Comment concrètement est-ce que vous pouvez chercher à grandir cette année dans votre accueil? Bien, premièrement, commencez par prier régulièrement pour que Dieu réalise cette vision-là. Qu'en cours d'année, vous disiez, c'est pas la vision des pasteurs, c'est ma vision à moi. C'est mon rêve à moi, ça. Deuxièmement, prenez le temps de saluer de nouvelles personnes chaque dimanche. Je suis sûr, écoutez, moi, chaque dimanche, il y a des personnes que j'ai jamais rencontrées avant ici. Je sais, je les salue à la porte. Prenez le temps de saluer une nouvelle personne. Hey, on ne s'est jamais rencontré. Ayez pas peur que la semaine prochaine, vous ne vous rappellerez pas de son nom. Je vous confesse, quand je vous dis bonjour mon frère, ma soeur, je ne sais pas c'est quoi votre nom. Je suis désolé, je suis vraiment gêné. Fait qu'à un moment donné, je vais vous demander toutes de vous promener avec des name tags, puis c'est bon. Une petite étoile si vous êtes membre. Discrimination. C'est pas important. Les gens veulent juste être accueillis. Puis tant mieux si c'est facile pour toi de te rappeler des noms. Prenez le temps de saluer une nouvelle personne chaque semaine. Invitez une personne qui cherche une place à prendre votre place. Ça suffit pas de dire, ah, je pense qu'il y a de la place par là-bas. Donnez-y votre place. Donnez-y votre place. Puis allez-vous chercher une place après ailleurs. C'est correct. Être sensible à toute personne qui semble seule ou qui aurait besoin d'informations le dimanche. On vous l'a dit, on va vous taquiner avec ça. Notre bienvenue, ça ne va pas être pour les visiteurs, ça va être pour vous. Pour vous rappeler que vous êtes là pour accueillir les gens, puis on est là pour ça, à quelque part. Allez vers les gens qui me ressemblent moins et les inviter à venir manger chez nous. Allez vers les gens, là, vous dites, écoute, si je l'invite, il va me dire non. Puis invitez-le à manger chez vous. Parce qu'ils ne vous ressemblent pas, puis vous allez être accueillants. Les toucheux, let's go. Une accolade, une main sur l'épaule. Soyez sensibles, on ne veut pas mettre les gens en boîte, mais on a un bout de chemin à faire là-dedans, c'est évident. Allez vers une personne pour l'écouter, pour la connaître. Laissez faire les petites questions de façade, ça va? Quand je dis ça va en général, je veux la suite. Puis ça me fait plaisir si la personne dit non. Tout ça, on va prier ensemble. Allez vers les gens pour savoir vraiment, pour les écouter. Partagez un repas avec une personne que vous connaissez peu ou pas, invitez-les. Être sensible au changement, ça c'est super important. Être sensible au changement de situation dans la vie des gens et de continuer à s'informer. Il y a des choses qui se passent dans une vie, tantôt j'ai donné à peu près les pires qu'on peut vivre, un divorce, une séparation, je suis abandonné par mon conjoint. Mais ça peut être la maladie, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être simplement la personne, elle ne sait pas où elle s'en va dans son cheminement de carrière. Et ces moments-là qui sont forts, ce sont des occasions d'isolement. C'est ça la vérité. Et donc soyons sensibles à ça. Il y a quelqu'un qui passe par un moment comme ça, je veux être sensible à ça, puis je vais continuer juste à m'enquérir, à me renseigner comment ça va. Puis vous savez quoi? Des fois, avec les gens qui sont malades à long terme, ça devient épuisant. C'est vrai, ça devient épuisant. 30 personnes, l'amour du peuple de Dieu qui me demande à chaque semaine, puis comment ça va? Moi, j'ai une petite formule. Je m'en sers de ce temps-ci avec une sœur, elle va se reconnaître. Je dis, bonne journée, mauvaise journée. Mauvaise journée, c'est correct, je prie pour toi. Si ça tente d'en parler plus, ça va me dire mauvaise journée parce que. Vous comprenez? Je veux respecter ça. Mais le danger plus grand, c'est qu'à un moment donné, j'oublie que ça, c'est sa réalité. Je ne suis plus sensible à ça. Et donc, soyons sensibles à ces moments de traumatisme, à quelque part, dans nos vies, qui sont favorables à cette espèce d'isolement-là. Laissez les gens avec un sourire. Vous avez le droit de me checker là-dessus. Un sourire, une parole d'encouragement, un compliment, une gentillesse. J'ai écrit juste pour moi. Gardez les lieux propres. Hey, ça, là, quand je vous dis c'est concret, là, ça ici, pour vous, c'est l'église, puis c'est peut-être un centre d'achat. Mais quand les gens rentrent à l'autre bout de la porte là-bas, puis qu'il y a 8 mégots de cigarettes par terre, puis 3 bouteilles qui traînent par terre, pour eux, c'est l'église de l'espoir. Ça. C'est la première fois qu'ils viennent. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous dites, moi, là, écoute, juste aller voir les gens parler, c'est pas my cup of tea, comme on dit. C'est correct. Arrive 15 minutes plus tôt, on va voir Miguel. Dis, Miguel, comment je peux t'aider? T'as-tu du Windex? Let's go. Moi, je vais mettre ça propre. Parce que quand je reçois chez nous, c'est plus propre que le reste de la semaine. Aidez à garder la place propre. Laissez votre place dans le stationnement. C'est fou, hein? Il faut stationner loin si on arrive 5 minutes avant le début du service. Laissez votre place, prenez une petite marche. 2 calories de brûlé. Intéressez-vous aux enfants autant qu'aux adultes. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est quelque chose d'important. Les petites bébites là, qui passent à côté, là, que vous regardez, puis s'ils sont cute, on fait un petit sourire. Intéressez-vous aussi aux enfants. Les parents l'apprécient, mais les enfants l'apprécient. Les enfants l'apprécient énormément. Multipliez votre petit groupe pour faire de la place. Il est trop gros, puis vous dites, « Ouais, mais c'est parce qu'on est plein. » Allume. Allume. Catch, qu'est-ce que Dieu est en train de te dire. Offrez à une personne de la voyager le dimanche. Vous seriez surpris de savoir combien il y a de personnes qui ont de la difficulté à se rendre ici le dimanche matin. Il y en a qui viennent juste de temps en temps à cause de ça, parce qu'ils ont besoin tout simplement d'un lift. Apportez régulièrement des aliments non périssables pour notre garde-manger d'entraide. Et je vous laisse sur cet élément-là concret. À compter de dimanche prochain, on va avoir un panier qui va être disponible pour que pendant toute l'année, vous puissiez apporter du non périssable. Toute l'année. Et tranquillement, on va se bâtir un garde-manger parce que des fois, c'est ça la bonne chose à faire. Il y a quelqu'un qui se pointe ici un dimanche matin. Dernièrement, il y avait un monsieur qui s'est fait mettre à la porte puis il est mal pris. Et la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de ne pas le laisser partir d'ici les mains vides, mais lui assurer qu'il va y avoir une ressource, qu'on va l'accompagner, qu'on va l'aider à prendre un repas. Et donc ça, c'est une manière concrète d'être accueillant parce que c'est très tangible lorsqu'on a cette liberté-là de le faire. De poser ce geste-là. Alors, prenez la décision simplement, chaque semaine, chaque deux semaines, quand vous faites l'épicerie, des non-périssables, on vous dirigera un petit peu dans tout ça, mais rentrez-là dans la culture, puis ça va devenir notre culture à nous ici comme Église. Après ça, on va passer à la louange ensemble, puis on va prier ensemble. Mais Dieu veut faire des belles choses avec l'Église de l'Espoir. Je suis vraiment béni de servir ici, puis de voir cette Église-là. Tout à l'heure, j'étais avec les jeunes dans le local Boomerang. Tu sais, ces gars-là spécialement qui ont à peu près 15 secondes de capacité d'attention parce qu'ils sont sur des jeux vidéo. Vous savez quoi? On a jasé pendant 50 minutes du petit carton puis de la vision. C'est ça qu'on a fait. Puis à la fin, il y en a un qui a dit, « Hey, ça a passé super vite, c'est le fun. » On va prier ensemble. Le Seigneur va faire des belles choses avec notre Église. Seigneur Jésus, on veut te bénir. On veut t'adorer parce que tu nous as aimés, tu nous as accueillis, Seigneur. Tu es tellement bon. Tu as été tellement bon envers moi, Seigneur. Puis chaque matin, chaque soir, quand je fais un bilan de ma journée, puis je me retrouve encore à confesser des péchés, je suis toujours accueilli par l'Évangile, Seigneur. Toujours émerveillé de savoir que encore aujourd'hui, je peux t'appeler papa, tu ne m'as pas mis à la porte, tu ne m'as pas dit de prendre mon sac à dos, puis de quitter la maison parce que je n'étais pas digne de ton nom, Seigneur. Au contraire. Au contraire. Seigneur Jésus, lorsqu'on regarde à ton ministère, lorsqu'on regarde comment tu étais, comment tu te comportais concrètement avec les gens, honnêtement, c'est troublant, Seigneur. J'ai donné des illustrations ce matin. Je ne suis pas sûr, Seigneur, que je suis prêt à toucher un lépreux. Pas sûr sans gants de latex. J'ai encore besoin que tu me transformes, Jésus. Viens nous transformer, Seigneur. Que l'accueil chez nous, ce ne soit pas un beau slogan, une phrase qu'on lance en début d'année, qu'on se rappelle à la fin de l'année avec un peu de culpabilité, Seigneur. Mais que ce soit nous, parce qu'on veut être comme toi. C'est en Jésus qu'on prie. Amen.